il va de soi qu'on essaye de lire avant de venir. Hein. L'idéal, c'est que vous ayez lu les chapitres dont je vais parler. Hein, je ne prends pas le temps de cette lecture pour une question de temps, de durée, mais voilà, je peux vous dire dès à présent que la prochaine fois, nous parlerons, nous lirons de façon approfondie le chapitre 1. Normalement, vous avez avec vous une feuille de présentation avec le plan du cours que j'essaierai de suivre. J'espère ne pas m'en éloigner, mais normalement, tout est déjà prévu. Et puis après, des indications bibliographiques. Alors, Camille Faucan, c'est un exégète belge. En Belgique, ils ont d'excellents exégètes. Il y a une tradition de très bons exégètes. Et Faucan est vraiment un spécialiste. Et ce qu'on appelle les cahiers évangiles, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des petits cahiers qui sont très pédagogiques, qui reprennent souvent des gros livres, mais de façon beaucoup plus... C'est souvent des cahiers qui sont utilisés dans des groupes bibliques. Hein, donc, il y a vraiment une pédagogie, c'est pas très long à lire, et ça permet de bien travailler. Faucan est tout à fait passionnant. Xavier Léon Dufour, l'Évangile selon saint Marc. Alors là, c'est un ouvrage de type assez scolaire, enfin scolaire au sens universitaire, hein, qui vous donne les données principales sur saint Marc. C'est plus approfondi que le cahier Évangile, c'est une présentation fondamentale dans une collection qui est très ancienne, qui date des années 70, mais quand il y a un livre qui est bon, c'est pas parce que les années passent qu'il devient mauvais. Hein. C'est même plutôt le contraire. Hein. C'est comme le bon vin, ça s'améliore quelquefois en vieillissant. Donc, dans les années 60-70, on a eu d'excellents exégètes en France, on a eu cette chance. Eh bien, il y en a encore aujourd'hui, je vous rassure. Et là, il y a cette collection d'une dizaine d'ouvrages, introduction à la Bible, et spécialement un passage sur Saint-Marc. Rademakers, ça tient, j'allais dire, davantage. Rademakers, c'est un très bon exégète, mais ça tient davantage de la lecture spirituelle, des exercices spirituels. Il est jésuite. Voilà, c'est pas très facile à trouver le commentaire de Rademakers. Voilà. Et puis les pères de l'Église. Alors, une chose est certaine, c'est que si on se dit franchement, le cours de lundi dernier, c'était franchement nul, on n'a rien compris, il est passé à côté de l'essentiel, voilà. Vous lisez les pères de l'Église, alors ils rattrapent tout. Hein, les pères de l'Église, c'est vraiment, ils passaient leur temps, ils étaient baignés dans l'Écriture, ils étaient nourris de l'Écriture, ils faisaient le lien entre la lecture de l'Écriture, la liturgie, la vie morale, la vie spirituelle, et donc les pères de l'Église, on ne s'ennuie jamais. Voilà. J'espère qu'avec ça, si vous aurez de quoi vous amuser cette année, enfin, au sens noble. Et voilà. Et chacun a une feuille avec le cours. Vous l'aurez à chaque fois entre les mains. Et j'espère qu'il y aura le temps de poser des questions à la fin. Mais là, l'introduction étant un peu longue, vous en aurez un peu moins. Il y a un petit papier sur lequel il faudrait, si vous voulez bien, mettre votre nom et votre adresse mail. Ce papier sera remis à Guillaume Tabar, qui vous mettra dans le fichier pour vous envoyer les informations tous les mois pour que vous puissiez venir. Hein. Donc, si vous voulez mettre votre nom, il est journaliste, il sait ce que c'est que le respect des données personnelles, donc ça ne sortira pas d'ici. Si vous pouvez, voilà, Jacques, ça part d'ici, et ça fait tout le tour. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être journaliste pour respecter les données personnelles, mais enfin, je pense qu'il est, voilà, il fera un très bon usage de vos adresses. Merci. Alors, nous partons donc pour une introduction générale à l'Évangile selon saint Marc. Alors, quand on lit saint Marc, premier abord, on a l'impression de trouver un texte pas très bien ficelé, quelquefois écrit d'une manière un peu rapide, un peu primaire. Hein, et on se dit, bah oui, saint Marc, si on nous dit que c'est le plus ancien des évangiles, c'est qu'on voit qu'il a servi de matériau à d'autres évangiles beaucoup plus élaborés. Saint Matthieu, qui est très construit, c'est une très belle architecture. Et puis saint Luc, qui a une langue extrêmement belle, extrêmement fluide. Voilà, et c'est, de toute façon, assez habituel, on a un peu cette réaction, qui, je reviendrai tout à l'heure, n'est pas forcément dénué de fondement. C'est vrai que saint Marc, d'un point de vue littéraire, est assez, n'est pas excellent, hein, mais il faut bien sûr aller plus loin. Saint Marc a son originalité. Oui, je me permets de dire, si ça ne vous ennuie pas, même si vous étiez inscrit l'an passé, ça nous rend service parce que les données de l'an passé, on les met de côté. Donc, si vous mettez au moins votre nom,
Ça simplifie les choses, ça facilite les choses. Un petit effort en mettant votre nom, je crois que ça rendra, ça aidera notre ami Guillaume, hein, plutôt. Oui.
Je crois aussi que certains recevront deux fois ou trois fois le message.
Ah, alors ça, bon, bah, il faudra lui signaler. Voilà. En tout cas, ça marque à son originalité que nous allons essayer d'approcher. Hein. Il faut aller au-delà de cette première impression. On se rend compte que finalement, ce style assez abrupt contribue à nous mettre en présence du mystère du Christ ressuscité. L'évangile selon saint Marc, c'est l'évangile, d'ailleurs il le dit lui-même, l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire pleinement Jésus-Christ et rien d'autre que Jésus-Christ. L'objectif lointain, je vous le donne tout de suite, il s'agit de devenir les témoins de Jésus-Christ, hein, c'est la finale de saint Marc, mais d'ici là, il y a tout cet itinéraire qui va être celui de la révélation de Jésus-Christ. Et c'est cela que nous allons essayer de voir. Voilà, deux gros morceaux pour notre soirée. D'abord, je vais m'arrêter sur le verset 1, hein, l'introduction de l'évangile, et puis ensuite, je présenterai de façon plus classique le livre, l'auteur, le lieu, les destinataires, la composition, etc. Tout d'abord, le premier verset, l'introduction de l'évangile. Cette introduction, c'est d'abord une annonce. Une annonce qui nous dit ce qu'est le livre. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Alors, vous vous dites, ben, ça tombe très bien, parce que j'ai ouvert ma Bible, je cherche l'évangile sur le Saint-Marc, je tombe dessus, et quels sont les premiers mots? C'est marqué « commencement de l'évangile ». Ben oui, c'est le commencement de l'évangile. C'est une espèce de tautologie, vous savez, c'est un peu, pardon pour la comparaison, mais c'est quoi? C'est le chat, il est devant, vous savez, là, la bande dessinée, pas toujours très maligne, on le voit devant un plan de Paris, et il y a un endroit, et c'est marqué « vous êtes ici ». Et le commentaire, c'est « les nouvelles vont vite ». Voilà, hein. Donc, voilà, ben, il montre, vous êtes ici, ben oui, je suis là, tiens, ils sont au courant. Hein. Ben, c'est quand on le voit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, c'est pas saint Marc qui dit, tiens, vous êtes bien tombé, c'est le commencement de l'évangile. En fait, l'évangile n'a pas du tout le sens de commencement du livre de l'évangile. Vous voyez, ce n'est pas ça. Hein. L'évangile n'a pas le sens du livre de l'évangile. Quand saint Marc emploie ce mot, le mot n'a pas le sens de évangile au sens où nous l'entendons. Pour nous, un évangile, c'est un livre. Et Marc ne s'est pas embêté à marquer, je sais pas quoi, c'est comme si Balzac disait « début de mon roman ». En tant que tel, ça n'a aucun intérêt. Donc quand saint Marc dit « commencement de l'évangile », il emploie un mot qui n'a jamais été employé à propos du livre, en revanche qui est connu, qui vient de l'Ancien Testament, de la Bible, du grec « evangelion », d'ailleurs c'est un mot païen qui voulait dire « evangelion », c'était la nouvelle que l'on annonçait quand il y avait une victoire. Hein, quand il y avait une victoire chez les Grecs, eh bien, un « evangelion », il y avait un messager qui annonçait la nouvelle de cette victoire. Le traducteur grec d'Isaïe, au 3e siècle, au 2e siècle, a repris ce terme pour annoncer le salut que Dieu allait accomplir. Non pas une victoire des Grecs sur les Perses ou je ne sais trop qui, mais le salut que Dieu va accomplir. Et c'est dans ce sens théologique de la prophétie d'Isaïe, ou plutôt du second Isaïe, je vais revenir dessus tout à l'heure, c'est dans ce sens théologique de l'attente d'un salut, c'est dans ce sens que saint Marc l'a utilisé. Vous voyez comment on peut aplatir le texte si on dit commencement de l'évangile, bah oui, c'est le commencement du livre, hein. Commencement du roman de Balzac, non, ce n'est pas ça, c'est pas commencement au sens absolu, c'est l'évangile dont parle Isaïe commence à s'accomplir, la bonne nouvelle. Hein. Ce qui veut dire, et ça c'est Camille Faucan qui le montre très bien, l'exégète dont je vous ai parlé tout à l'heure, que l'introduction de l'évangile est comme en amont de l'évangile. L'évangile pose ses pieds, ses fondements, dans l'Ancien Testament. Il faut revenir au prophète Isaïe pour voir qu'en Jésus, quelque chose va s'accomplir. Cette introduction n'est pas un absolu, elle renvoie à une autre introduction qui est en deçà du texte, en amont du texte, hein, que l'on trouve chez le second Isaïe. Hein. Ce saint Irénée, qui est le premier grand commentateur des Écritures, qui est notre premier maître en exégèse, un des premiers, écrit « De toute évidence, Marc situe le commencement de l'Évangile dans les paroles des saints prophètes. Hein. » Pour lire saint Marc, il faut d'abord lire le second Isaïe. Hein. Et ça, c'est très marquant parce que, vous verrez, saint Marc est assez peu porté sur la lecture de l'Ancien Testament, à la différence de saint Matthieu, par exemple, qui ne cesse de dire « Ainsi s'accomplit l'oracle du prophète », ou alors saint Luc, hein, qui est beaucoup dans cette théologie de l'accomplissement. Hein. Saint Marc en parle assez peu. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose de très fort, hein, quand il sollicite, il fait appel au second Isaïe, au deutéro-Isaïe, pour dire « Il y a une attente très forte de salut, et bien ça y est, cette attente commence à se réaliser. » Donc le vocabulaire a beaucoup plus de densité, hein, que cette espèce de, qu'on appelle ça, de truisme, ou je ne sais pas quoi, enfin pardon pour l'image du chat qui dit « vous êtes ici », ben oui, ils sont au courant, c'est un peu à ce niveau-là. Hein. On dit une chose qui est immédiatement applicable, mais qui n'a aucun intérêt. Alors le second Isaïe, là c'est la Bible.
Oui, je me suis trompée.
Vous êtes bienvenue quand même.
J'ai trouvé ma salle.
Il vaut mieux. Vous avez le panneau qui est. Vous avez trouvé, d'accord. Voilà. Le second Isaïe, alors je m'arrête quelques instants dessus. À peu près chaque année, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous m'avez entendu faire un arrêt sur le second Isaïe, parce que sûrement dans l'Ancien Testament, c'est le passage, enfin la partie biblique la plus importante, la plus fondamentale pour comprendre qui est Jésus-Christ, qui est Jean-Baptiste, ce que veut dire évangile. Hein. Le second Isaïe est incontournable. Alors, le second Isaïe, vous êtes étonné, parce que vous dites, moi je connais un prophète Isaïe. Hein. En fait, depuis la fin du 19e siècle, des exégètes ont repéré qu'il y a chez Isaïe trois couche bien repérable, hein, quand on voit le prophète qui annonce que Jérusalem va se faire détruire, ensuite quand on voit le même prophète qui dit Jérusalem s'est fait détruire, et puis le même prophète qui dit Jérusalem a été reconstruite, on voit bien qu'on n'est pas à la même époque. Hein. Surtout que le premier prophète parle du roi Akaz qui vivait à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, et l'autre il parle d'événements qui se passent au 6e siècle. Donc, vous savez, quelquefois une exégèse un peu qui se voulait, qui disait faut se méfier de l'exégèse critique, hein, qui sape les fondements de la révélation biblique. Hein, c'est à l'époque du modernisme, on se méfiait beaucoup de ça, dans la crise moderniste au début du XXe siècle. On était très méfiants vis-à-vis de l'exégèse critique. Alors non, il y a des positions qu'on ne peut pas tenir, ça devient du fondamentalisme. Isaïe n'a pas pu vivre en même temps au 8e siècle et en même temps au 6e siècle. C'est absurde. Les textes de l'Ancien Testament ont une histoire, les évangiles aussi d'ailleurs. Mais dans l'Ancien Testament, une histoire beaucoup plus longue. Et le prophète Isaïe, en fait, ces textes qui s'étalent sur 2 siècles à peu près, ont été rassemblés dans un livre parce que ce livre nous raconte l'histoire de Jérusalem. Voilà, hein, le prophète qui annonce « Avec ton péché, tu vas être entraîné dans l'exil », et c'est ce qui s'est passé. Jérusalem a été exilé. Donc, le premier Isaïe, c'est le prophète qui appelle à la conversion. Le deuxième, c'est celui qui dit « Ben voilà, Jérusalem, tu t'es détourné de ton Seigneur, tu as été exilé, mais maintenant vient le temps de la consolation. Consolez, consolez mon peuple, hein, dit le Seigneur. » Parlez au cœur de Jérusalem, dites-lui que sa faute est expiée, hein, que sa peine est terminée. Hein. Voici une voix crie dans le désert, hein, préparez le chemin du Seigneur. Le Seigneur vient à votre rencontre pour vous sauver. Hein. On arrive même à dater le deuxième Isaïe, hein, tenez-vous bien, de l'an 539. Parce que c'est juste avant l'arrivée des Mèdes et des Perses qui ont libéré, qui ont chassé les Babyloniens et qui ont libéré les Juifs, qui ont permis aux Juifs de revenir à Jérusalem par une voie sacrée, hein, une voie royale à travers le désert, préparer le chemin du Seigneur. Donc c'est l'imminence du salut. Le deuxième Isaïe, c'est celui qui dit, ça y est, les Mèdes sont en train d'arriver, les Perses sont en train d'arriver, c'est Cyrus, le roi Cyrus, hein, qui était le libérateur des Juifs et qui a permis aux Juifs de revenir. Donc ce sont des événements historiques, mais le prophète inspiré voit que Dieu va intervenir d'une manière beaucoup plus décisive pour un salut, mais évidemment qu'on attend dans l'avenir. Et c'est là que saint Marc arrive en disant, eh bien, ce salut que Israël attend, qui n'est pas uniquement le fait de quitter Babylone et de revenir à Jérusalem, mais un salut qui va être beaucoup plus profond, c'est l'homme libéré du péché, eh bien, cette imminence, cette attente, ça y est, ça commence, c'est en train d'arriver. commencement de l'évangile, ce que Isaïe, le deuxième Isaïe nous annonçait, ça y est, nous sommes en train d'en voir un début d'accomplissement. Vous voyez et ça donne à l'évangile de Saint-Marc toute sa force, parce qu'on ne va pas être simplement dans une sorte de description un peu extérieure à distance, mais on est dans un témoignage. Voilà ce qui s'est passé. L'évangile, la bonne nouvelle du salut, prend corps avec les événements qui sont en train de survenir, en train d'arriver. Et alors, un autre aspect intéressant, là je vous ai parlé du salut qui arrive en Jésus-Christ, le deuxième Isaïe, c'est celui qui dit, et on l'aura tout de suite après, au verset 2, au verset 3, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ». Le chemin pour que le Seigneur vienne vous chercher. Hein. Celui qui est perdu dans le désert, on dit, ça y est, prépare un chemin pour qu'on aille te chercher au fond des buissons d'épines, au fond du gouffre. Enfin, ça y est, on va t'envoyer une corde, tu vas voir remonter. Vous voyez un petit peu l'idée. Eh bien, il y a une voix qui proclame cela, qui dit, faites attention, le salut arrive. Il faut bien une voix pour reconnaître que le salut arrive. Alors, le deuxième Isaïe s'identifie à cette voix. Il est lui-même cette voix. La voix qui crie dans le désert, hein, c'est le prophète. C'est la fonction du prophète d'annoncer le salut. Voilà. Deuxième Isaïe s'identifie à cette voix. Vous connaissez bien le texte, voix qui crie dans le désert. Hein, ça vous dit quelque chose. Hein, vous connaissez. Ça, je crois que c'est un texte qu'on a dans chaque évangile. Eh bien, ce deuxième Isaïe, ce prophète du seuil, hein, j'aime bien cette idée de prophète du seuil, le prophète de l'imminence du salut, cette voix est réactivée à travers Jean-Baptiste. Hein, comme le dit saint Marc, Jean-Baptiste était dans le désert. Il était cette voix qui criait « Préparez le chemin du Seigneur ». Évidemment, dans le désert, les gens viennent dans le désert et disent « Préparez parce que le Seigneur vient à votre rencontre. Soyez prêts à l'accueillir, il va vous libérer. » Vous voyez comment c'est Jean-Baptiste réactive cette parole du prophète, mais on n'est plus dans une attente lointaine, on est dans une réalisation. Voilà. Jean-Baptiste survint dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés, pour annoncer celui qui vient. Alors vous m'entendrez souvent reprendre le verbe « venir », hein, celui qui vient. Dans l'Évangile, Jésus est toujours celui qui vient. Vous allez me dire, mais c'est un mot très simple, très auquel on ne fait pas attention. « Venir », c'est d'accord, ben, je viens, je suis là. Oui, mais pour Jésus, quand on vous dit « le Sauveur vient », hein, vous êtes dans votre prison et on vous dit, ça y est, votre libérateur vient. Le mot venir prend une densité extrêmement forte. Hein. Quand Jésus entre à Jérusalem, on le salue comment ? On dit, voici celui qui vient. Même pas besoin d'en dire plus. Il vient. Il vient ? Oui, il vient. Hein. Quand, quelqu'un qui a perdu les parents qui ont perdu l'enfant qui a fait une fugue depuis très très longtemps, et ça y est, l'enfant revient, et ça y est, il vient, il est là. Vous imaginez cette joie bouleversante. Le Seigneur est. Jésus est par excellence celui qui vient. Celui qui vient derrière moi est plus grand que moi. C'est déjà Jean-Baptiste qui vient. On peut traduire aussi Erkomai, survenir. Voilà, il vient. Jean le Baptiste advint, il vint dans le désert. Et il annonce vient derrière moi celui qui est plus fort que moi. Voilà, puis au verset 14, Jésus vint en Galilée. Venir, ça veut dire qu'il y a un événement du salut qui va advenir. Hein, dans son côté très, j'allais dire, très existentiel, très concret. Hein. La bonne nouvelle n'est plus simplement une prophétie lointaine, elle survient en Jésus. Elle commence à s'accomplir. Voilà. Pour terminer ce point-là, hein, vous voyez comment Saint-Marc a été très, très marqué par ce témoignage qu'il a reçu de Pierre. Je reviendrai dessus tout à l'heure. On considère que Saint-Marc est le plus ancien des évangiles synoptiques. Hein, c'est la question de la datation, nous la traiterons après, nous la traiterons tout à l'heure. Il a très certainement servi de source pour Saint-Matthieu et Saint-Luc. Alors, je vous épargne les discussions d'exégètes qui disent « mais non, Saint-Marc, en fait, est arrivé au terme, il a repris les autres hein. ». Les deux théories, c'est soit c'est Saint-Marc le plus ancien et Matthieu et Luc ont recopié Saint-Marc en l'enrichissant, soit au contraire, Saint-Marc serait au terme d'un processus. Je vous le dis pour que vous le sachiez, les deux théories existent, mais c'est quand même la première qui est la plus classique et, à mon avis, la plus solide. Hein. Voilà. Saint Marc est le plus ancien, il a servi de source. Il est le premier à avoir organisé sous une forme structurée les souvenirs concernant la vie et l'enseignement de Jésus. Il a reçu ses souvenirs, il a reçu ses différents éléments de tradition qui lui ont été transmis par Pierre, hein, j'anticipe sur ce que je dirai tout à l'heure, et tout cela, il l'a composé. Hein. Saint Luc reprendra cette idée dans son évangile, ayant reçu le témoignage de ceux qui ont été les témoins directs de Jésus, j'ai voulu composer un récit ordonné, hein, cher Théophile, hein, j'ai repris tous ces éléments et j'ai composé, vous vous souvenez, ceux qui étaient à Saint Luc il y a 2 ans, on en avait parlé, il a composé ce récit ordonné. Alors Saint Marc a déjà fait cela, c'est le premier à l'avoir fait, des souvenirs qui étaient transmis oralement dans la communauté chrétienne. Hein, les disciples de Jésus, à l'époque, l'Église n'était pas organisée comme elle l'est aujourd'hui. Donc, on se transmettait sûrement dans des assemblées liturgiques ou des assemblées de catéchèse. Il y avait trois lieux où on pouvait transmettre tous ces éléments de l'Évangile. Hein, en exégèse, on voit ça quand on lit l'Évangile. On dit le premier cadre, c'est celui du kérigme, de l'annonce, personne qui entrait dans la foi chrétienne, qui découvrait. Il y a ensuite la catéchèse, l'enseignement de ceux qui étaient déjà, qui étaient rentrés dans la foi, qui étaient rentrés dans l'Église, l'enseignement, hein, la didaké, hein, et puis, troisièmement, la liturgie. Hein, qui est le lieu où on transmet, évidemment, de façon, sur le mode de la louange, les récits des apôtres. Voilà, hein, l'annonce, l'enseignement et la liturgie. Voilà, hein. Et donc, dans ce cadre-là, Saint Marc a reçu cet enseignement, il l'a mis en forme, et cet enseignement a donné ce livre que, par la suite, l'Église a voulu nommer « Évangile », en disant, c'est bien cela. Mais vous avez compris que le mot évangile est venu à partir de l'événement de Jésus-Christ accomplissant la prophétie du deuxième Isaïe. Voilà. J'ai bien conscience que c'est une approche un peu particulière, c'est pas forcément facile. Est-ce que ça va? On fait un petit arrêt de 30 secondes. Est-ce qu'il y en a pour qui ils disent, il faut vraiment que je demande au Père Henri de les premiers de revenir en arrière parce que c'était pas clair. Ça va?
Le mot évangile ne veut pas dire la même chose pour Saint Matthieu et Saint...
Ça veut dire exactement la même chose, c'est la même chose. D'ailleurs, le mot évangile veut tellement dire la même chose que Saint Irénée, hein, Irénée, c'est un évêque de Lyon, premier grand théologien de l'Église, celui qui a écrit la première somme théologique, et qui a écrit des textes tout à fait fondamentaux pour la connaissance des évangiles. Et c'est lui qui a cette expression que je trouve assez belle, il parle de l'évangile quadriforme. L'évangile quadriforme, ça veut dire, l'évangile en fait c'est Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ. Et il a pris 4 formes à travers 4 témoignages, celui de Saint Matthieu, celui de Saint Marc, celui de Saint Luc. C'est la même chose, c'est la forme qui change. Vous voyez ? Mais Saint Marc est le premier, au début de son livre, à ce moment-là, on disait, tiens, c'est le livre de Saint Marc, tu veux le lire ? Ben oui, je vais le lire, commencement de l'Évangile. Alors le Juif, qui connaissait bien Isaïe, disait, oh, c'est le commencement de l'Évangile, c'est le commencement de la bonne nouvelle. C'est le commencement de ce que nous attendons depuis le retour d'exil à Babylone. Vous voyez ? Et pareil pour Matthieu, pareil pour Luc, pareil pour Jean. Ça va ? Hein ? C'est, voilà, les mots ont une densité. Hein, une densité extraordinaire. On comprend pourquoi le christianisme, c'est une parenthèse, comme vous savez que j'aime bien en faire, le christianisme a été vecteur de culture. Parce qu'il y a un amour de la lettre, mais qu'on n'est pas dans le fondamentalisme, le littéralisme. Ah, c'est marqué, c'est comme ça, tu discutes pas. Au contraire, le mot cache beaucoup de choses. Derrière le mot, il y a beaucoup de choses. Et il faut creuser. Il y a tout l'Ancien Testament, et derrière l'Ancien Testament, il y a toute l'expérience du peuple de Dieu, de l'âme humaine. Hein, vous voyez une image qui m'a beaucoup marqué pour comprendre cela. Hein, c'était en Terre Sainte, un voyage. Père de Villefranche, vous avez conduit à Timna, qui est un endroit extraordinaire, loin de tout. Vous avez des trous, comme ça, alors qu'ils sont maintenant sont bouchés. C'était des mines. 1000 avant Jésus-Christ, descendre à je ne sais pas combien sous terre, avec les conditions de l'époque, ont creusé, et dans ces mines, ont trouvé des pierres précieuses. Voilà, des pierres très précieuses. Et bien, ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, finalement, on voyait au sol, une espèce de marque, la terre était un peu différente. On voyait qu'il y avait quelque chose. Il fallait creuser. Voilà. Eh bien, chaque mot dans la Bible, c'est un peu comme une entrée, l'entrée d'une mine. Et vous creusez le mot, et là, vous découvrez une vraie richesse. Et les pierres précieuses, ça va être des textes de l'Ancien Testament, et derrière, ça va être une expérience spirituelle, une vérité théologique. Celui qui lit de façon superficielle va dire début de l'évangile. Ben oui, début de l'évangile. Ben évidemment, je commence à lire l'évangile, donc c'est le début de l'évangile. Vous avez bien compris que c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'Isaïe, il s'agit de l'accomplissement du salut. Le mot évangile est un mot dense au niveau théologique. Alors, le contenu de l'évangile. Pour aborder le contenu de l'évangile, je reste toujours sur le premier verset, le même. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En quelques mots, Saint Marc nous a dit le contenu de l'évangile et le plan qu'il va suivre. Vous avez le contenu de tout ce que nous allons découvrir et même le plan. Le commencement se réfère, bien sûr, aux promesses prophétiques. Je viens de vous l'expliquer. L'évangile lui-même, la bonne nouvelle, concerne Jésus. L'évangile de Jésus. Celui qui vint en Galilée pour proclamer l'évangile de Dieu. Ça, c'est la première partie de l'évangile. On a le plan de l'évangile. Jésus, c'est tous les premiers chapitres de l'évangile. Jésus qui parcourt les routes de Galilée, qui va en Galilée pour annoncer le salut. Au terme de cette première partie, jusqu'au chapitre 8, Saint Pierre va confesser Jésus comme le Christ, c'est-à-dire le Messie. Tu es le Christ, le Messie. Commencement de l'évangile de Jésus, chapitre 1 à 8, Jésus Christ, chapitre 8. Le chapitre 8, c'est le basculement, le grand basculement de l'évangile, quand Jésus va commencer à quitter la Galilée pour aller vers Jérusalem. Et là, Jésus va conduire les disciples à franchir une étape, un pas supplémentaire, dans la compréhension du mystère de sa personne. Ça va être la deuxième partie de l'évangile, qui culmine dans la passion. Et comme en écho à la confession de Pierre, c'est le centurion romain qui va déclarer que Jésus est le Fils de Dieu. Chapitre 15. Chapitre 1, c'est Jésus. Chapitre 8, Christ. Chapitre 15, Fils de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. On a en condensé le plan de l'évangile. Le Christ, ça veut dire le Messie, ce qui est déjà beaucoup par rapport au nom de Jésus. Le nom de Jésus était très répandu. Il y en a beaucoup qui s'appelaient Jésus. Yeshua, le Seigneur sauve. C'est un prénom. Christ, tout le monde n'est pas le Christ. Mais le Christ, on ne sait pas encore trop ce que ça veut dire. On va le voir. Donc il y a encore une progression. Et cette progression, elle aboutit à la fin de l'évangile, à la confession du centurion. Il est vraiment le Fils de Dieu. Voilà. Et là, c'est la parole ultime. Tout est dit dans ces quelques mots. Et plus largement, dans ces premiers versets, jusqu'au verset 8, tout est dit dans les premiers versets. Jésus est le Christ, il est le Fils de Dieu, il est supérieur à Jean, comme Jean va le dire, donc il est plus grand que les prophètes, et il va baptiser dans l'Esprit Saint. Tout est dit, il n'y a rien de plus à dire, le fait que Jésus baptise dans l'Esprit Saint. Tout est dit, et pourtant, nous ne savons rien. Vous dites, génial, tout est dit, pourquoi aller plus loin? On arrête tout, on s'en va, on va aller finir le buffet, il y avait des bonnes choses que j'ai pas eu le temps de prendre. Voilà. Je sais pas, pour vous, moi j'ai pas pris beaucoup de desserts, c'est pas grave. Voilà, tout est dit. Mais il suffit pas que... Non, rassurez-vous, je plaisante. Mais il suffit pas que tout soit dit. Et là, on est exactement dans l'attitude de la lecture de l'évangile, il ne suffit pas de dire les choses. Sans ça, on se contenterait juste de donner 2-3 affirmations de foi. Il faut que le lecteur lui-même comprenne ce que cela veut dire. Que les mots, pour lui, pénètrent dans son cœur, qu'il en comprenne le sens. Si je vous pose la question, vous allez m'affirmer, comme bon chrétien, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Il est supérieur à Jean-Baptiste, c'est-à-dire au prophète, et il va envoyer l'Esprit Saint. Vous êtes d'accord? A priori, oui. Alors, je me souviens d'un étudiant, quand j'étais aumônier de Jussieu, hein, il tenait une affirmation de foi, il discutait avec les autres qui ne savaient pas trop, qui ne connaissaient pas trop, et regardait une fille, il disait « Comment tu ne crois pas à l'Immaculée Conception telle que c'est marqué dans le catéchisme ? Père Henri, faites-lui comprendre que c'est la foi de l'Église, si elle ne comprend pas, c'est qu'elle n'est pas catholique. » Alors, il y a peut-être quelques étapes, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Hein, mais pourtant, mais Père Henri, vous êtes en train d'hésiter, c'est marqué dedans, donc pourquoi vous ne l'affirmez pas ? Voilà, d'accord, oui, c'est dit, mais une fois que c'est dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça reste des mots, et qu'avec des mots, on peut faire soit une idéologie, soit une doctrine. En tout cas, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est que l'affirmation « Jésus-Christ, fils de Dieu », ça devienne une confession. Pierre, c'était une confession quand il a dit « Tu es le Christ ». Il n'a pas répété des mots de façon extérieure. D'ailleurs, Matthieu va nous dire « Ces paroles que tu dis, Pierre, c'est bien l'Esprit Saint qui en toi a fait son œuvre. » Et pareil pour le centurion. Hein. Donc, si vous voulez, le lecteur quand il va un petit peu plus loin que la simple affirmation, si je lui pose la question, si je vous pose la question, hein, si je vous demandais de faire un exposé, qu'est-ce que ça veut dire Christ ? Qu'est-ce que ça veut dire Fils de Dieu ? Tout au long de l'Évangile, on va voir que les foules auront bien du mal à comprendre le sens. Hein ? Le terme de Christ, par exemple, n'est pas du tout facile à comprendre. Et même les apôtres qui en savaient plus que nous sur l'attente messianique de l'Ancien Testament, même eux, se sont trompés et Jésus a été obligé de leur faire un enseignement extrêmement précis et en posant sans cesse la question « Vous n'avez toujours pas compris ». Je vais revenir dessus tout de suite. Donc, saint Jean va construire son récit comme une sorte d'itinéraire avec des étapes pour conduire le lecteur à confesser Jésus-Christ. Non pas selon ce qu'il pensait déjà connaître, mais selon ce que Jésus est vraiment. Et avec l'ouverture du cœur. Je me tourne vers ceux qui s'occupent de catéchuménat, mais ils savent bien qu'il ne suffit pas de dire à un catéchumène « c'est comme ça ». Il y a un cheminement qui, quelquefois, est long et difficile pour que les mots puissent pénétrer à l'intérieur de l'âme, du cœur, de l'intelligence, parce que le christianisme donne aussi toute sa place à la raison, à l'intelligence. L'évangile, selon saint Marc, constitue une progression dans la révélation de l'identité de Jésus. C'est vraiment le propre de l'évangile de saint Marc. Hein. Révélation de l'identité de Jésus. Et la compréhension qu'en ont les disciples. Et saint Marc insiste beaucoup dessus et il n'hésite pas à mettre les disciples devant leur difficulté à comprendre. Hein. À la fin de la période galiléenne, hein, chapitre 8, qui est vraiment une sorte de pivot, il y a un moment, je crois que ils sont sur la barque, hein, il y a une discussion avec les disciples, et à deux reprises, il dit « Vous ne comprenez donc pas ». Il leur donne une explication. « Vous n'avez donc toujours pas compris hein. ». Et on verra juste après la guérison en deux étapes de l'aveugle de Bethsaïde. C'est un texte très mystérieux, je ne sais pas si vous dites quelque chose. Il voit, qu'est-ce que tu vois ? Il était aveugle, Jésus le guérit. Il voit comme des arbres qui commencent à bouger. Et Jésus, une deuxième fois, va le toucher. Et là, il voit des personnes. Donc, il y a des étapes. Hein. On est au milieu de l'évangile, on n'est qu'au moment où on ne voit que des arbres. On n'a pas encore tout compris. La réponse de Pierre, hein, qui vient juste après, « Tu es le Christ » est une étape centrale. Mais ce n'est qu'une étape. La preuve, c'est que Pierre, une fois qu'il a dit « Tu es le Christ », pour lui, ça reste le Messie au sens humain. Il va dire à Jésus, non, Jésus, la passion, ça ne t'arrivera pas. Et là, Jésus est obligé de lui dire, mais toi, derrière moi, Satan, hein, voilà, d'accord, tu as raison, je suis le Christ, mais au-delà, tu as encore du chemin à faire. Voilà. Alors, un petit mot sur un terme dont vous avez peut-être entendu parler, ce qu'on appelle le secret messianique. Il y en a, ça vous dit quelque chose ou pas ? Hein, quelques-uns hein, qui ont lu des commentaires. Alors, on parle du secret messianique. L'idée du secret messianique, c'est quoi ? C'est que quand Jésus fait un miracle, celui qui l'a guéri, eh bien, il lui dit, n'en parle à personne. Et ça commence, en fait, même avec les démons, au début, hein, qui vont dire, tu es le Saint de Dieu. Première parole de foi qui est donnée, c'est par un démon, c'est quand même impressionnant. Le problème des démons, c'est qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas la charité. Hein. Voilà, ils ont la foi, mais ils n'ont pas la charité. Ils croient bien que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils n'ont pas la charité. Voilà. Et Jésus demande aux démons de se taire. Quel est le sens de ce silence ? Alors, on explique souvent le secret messianique en disant c'est une étape pédagogique parce que si on dit Jésus a fait des miracles, ça veut dire qu'on va nourrir un messianisme horizontal, politique, nationaliste. Hein, c'est lui qui va nous libérer des Romains. Donc, Jésus veut qu'on se taise. Comme ça, quand il arrivera au moment de la passion, au moment de la croix, il n'y aura plus d'ambiguïté. Toutes les attentes humaines vont s'effondrer, on verra bien le véritable messianisme. Alors ça, ce n'est pas totalement faux. C'est vrai que Jésus, sûrement, il y a une pédagogie, donc il demande de prendre le temps. Il n'acceptera d'être reconnu comme Messie que aux portes de Jérusalem, par l'aveugle Bartimée. Jésus-Christ, fils de Dieu, fils de David, aie pitié de moi. Et là, Jésus accepte pour la première fois de se faire interpeller comme Messie, juste au seuil de la Passion. Donc ça, c'est la première compréhension du secret messianique. Mais ça n'explique pas toujours, et de façon satisfaisante, cet ordre du silence que donne Jésus. En réalité, comme disent assez justement des exégètes, et encore une fois, je pense que c'est Camille Faucan a dit, c'est aussi cette idée que le mystère de Jésus, le mystère du Christ, ne peut être saisi par aucun langage humain, et que donc on ne peut pas se prononcer n'importe comment sur l'identité de Jésus. Il y a cette manifestation d'une réalité qui échappe à l'homme. Voilà, l'expression du mystère de Jésus qu'aucun langage humain ne peut saisir. Voilà, alors là, je vais maintenant entrer dans des considérations peut-être un petit peu plus accessibles, plus classiques. Voilà, simplement des informations, j'allais dire, que vous pourriez trouver dans des bonnes introductions, mais c'est important quand même de les mentionner. Tout d'abord, les circonstances de la rédaction. L'auteur, la date, l'époque, le lieu, etc. Le deuxième évangile n'est pas signé. On n'a aucune indication de ce qu'on appelle l'auteur implicite, c'est-à-dire celui qu'en analysant les données du livre, quelquefois on arrive à deviner qu'il s'agit d'un personnage. Là, chez Saint-Marc, on n'a rien. Luc se présente en disant « Voilà, cher Théophile, j'ai voulu écrire ce livre pour toi. » Bon, on devine que c'est un bon rédacteur qui a telle et telle qualité. Chez saint Jean, il est au pied de la croix, il dit « Voilà, j'ai vu, je veux rendre témoignage et j'ai écrit ce que j'ai reçu de mon expérience. » Donc Jean et Luc, ça semble assez clair. On a quelques éléments pour saint Matthieu, mais Marc n'offre aucune indication. Alors, on va chercher des informations à l'extérieur de l'évangile, et très probablement, d'après la tradition, on considère que l'auteur réel, c'est-à-dire l'auteur historique, celui qui a vraiment écrit le livre, c'est Jean-Marc, le Jean-Marc des Actes des Apôtres, qui fait partie de l'équipe missionnaire de Barnabé, cette première équipe avec qui Paul va partir en mission, la première mission de Paul. Il finit par quitter l'équipe de Barnabé et Paul. Il est originaire de Jérusalem. On situe la maison de la famille de Marc dans la vallée du Cédron, acte 12, chez la mère de Marc. Et on le compte aussi parmi les collaborateurs de Paul dans la lettre à Philémon. Voilà, tout ça, ce sont des éléments. Alors, je ne rentre pas dans le détail de ce qui a permis de reconstruire cela, mais on arrive quand même à cerner cette figure qui a été liée à la première mission de l'Église, au contact de Barnabé et de Paul, avec un enracinement à Jérusalem. Alors, on a d'autres informations très intéressantes. Une information très ancienne qu'on fait remonter autour de l'an 100, un certain Papias. On n'a pas de livre de Papias, mais c'est un historien de l'Église qui s'appelle Eusèbe de Césarée qui rapporte les textes les plus anciens, ce fameux Papias, et qui nous dit que Marc est compagnon de Pierre. Je pense que c'est... Oui, j'ai dû vous mettre ça en dernière page. Je vous cite au moins Eusèbe de Césarée. Voilà. Et il nous dit que Marc est compagnon de Pierre qu'il a rencontré à Rome. Voilà. Secrétaire de Saint-Pierre, d'après Pierre lui-même, son traducteur, interprète ou traducteur. Il y a un détail qui semble confirmer cela, c'est que Saint-Marc rapporte toutes sortes d'événements qui ne sont pas vraiment à l'avantage de Saint-Pierre, qui montre ce que Saint-Pierre avait de pas très reluisant. Et on imagine bien que des apôtres, surtout Saint-Luc, qui est plein de délicatesse et de charité, qui évite de parler de ce qui fâche, ils n'auraient pas parlé de ce qui est négatif chez le chef de l'Église. Enfin, le chef de l'Église, c'est le Christ, mais enfin, le premier des apôtres. Voilà. Donc, on se dit bien, il n'y a que Saint-Pierre qui a pu lui-même rapporter les événements qui ne sont pas à son avantage, et Saint-Marc, qui est son secrétaire, a rapporté le témoignage de Saint-Pierre. Oui. Pierre humblement a dit, ben voilà, j'étais pas très brillant et j'ai fait là l'expérience de la miséricorde du Christ, mais voilà, je tiens quand même à raconter que voilà ce que j'ai fait, ça fait pas quand même partie de cette histoire. Et saint Marc, eh ben, a écrit tout ça. Voilà. Puis les autres évangélistes ne vont pas s'arrêter à ces détails que donne saint Marc. Donc c'est un indice. Hein. Évidemment, cette donnée a été remise en cause à l'époque de l'exégèse critique, ce qui est normal, l'exégèse critique, c'est un peu son principe de tout remettre en cause pour vérifier avec les sources, mais les données que nous avons sont quand même sérieuses et il n'y a pas de raison suffisante pour rejeter cette attribution de l'évangile à Jean-Marc de Jérusalem, celui que l'Église honore comme Saint-Marc, compagnon de Saint-Pierre. Voilà. Alors, un détail que vous avez dans pas mal de présentations, mais là, ça reste très ténu. Hein. Il y a ce jeune homme qui s'enfuit tout nu, ça vous dit quelque chose, avec le vêtement qu'il porte dans la nuit. Quand Jésus se fait arrêter à Gethsémanie, il y avait là un jeune homme qui était caché derrière un arbre, un soldat romain lui prend le manteau, il s'enfuit tout nu. Alors derrière, il y a toute une interprétation qui est très intéressante. Hein. Je vous en parlerai, si vous avez le courage d'aller jusque à la sixième ou septième rencontre, hein, quand nous parlerons de la Passion. Voilà. Et là aussi, c'est un indice intéressant. Gethsémani, c'est le fond de la vallée du Cédron. C'est là que Jésus se fait arrêter. Juste à côté, vous avez l'église de la Dormition de Marie, l'église grecque, à laquelle nous n'avons pas pu descendre récemment. Avec certains, on a pu y descendre. Allez, les grands escaliers. C'est là qu'on situe là que Marie a fini sa vie, la maison de. Voilà. Et à côté de Gethsémani. Donc on devine que le jeune Jean-Marc qui habite dans cette maison, dans l'Antiquité, pour dormir, on ne porte rien sur soi, on met juste une couverture, il sort de son lit en mettant sa couverture au-dessus de lui, donc la position seulement de celui qui dort, hein, et puis il ne s'attendait pas à ça, parce qu'il retrouve Jésus qu'il connaît, et Jésus se fait arrêter, à ce moment-là il se fait repérer, et on arrache le manteau, il court vers sa maison. Hein. Vous allez dire, c'est un peu de la reconstitution, mais il y a une cohérence. On peut dater la rédaction de l'Évangile. Il n'y a pas chez Saint-Marc d'indice du siège de Jérusalem en 70, hein, à la différence de Matthieu et Luc. Quand vous lisez Matthieu et Luc, il y a vraiment des références assez claires à, vous savez qu'il y a eu la guerre entre les Romains et les Juifs en 70, hein, cette fameuse guerre racontée par Flavius Joseph, et on n'en a pas d'indice chez Saint-Marc. Donc c'est antérieur à 70. Saint-Irénée, dont je vous ai parlé, l'évêque de Lyon, deuxième moitié du deuxième siècle, très très ancien, Saint-Irénée dit que Saint-Marc a écrit son évangile après la mort de Pierre. Et Pierre a été persécuté sous Néron en 64. Voilà. Et Saint-Paul, alors Saint-Paul c'est soit 64, soit 67. Hein. Ce qui veut dire qu'on peut placer Marc entre la rédaction de l'évangile entre 64 et 69, ce qui cadre avec l'atmosphère de persécution et de guerre que l'on a au chapitre 13. Quand vous lisez le chapitre 13 de Saint-Marc, on voit bien qu'il y a un climat de tension très forte, et c'est vrai que cette période qui a précédé la guerre était une période de tension extrêmement vive en Judée, hein, et en Galilée. Le lieu de la composition, alors il n'y a pas d'indication explicite sur le lieu de la composition du livre, mais on a des indices. Premièrement, Saint-Marc explique les coutumes juives, qui donc n'étaient probablement pas connues. Hein? Je m'adresse à vous, qui êtes un public savant, distingué et cultivé, j'imagine en majorité catholique, peut-être qu'il y en a-t-il qui ne le sont pas, mais enfin, admettons que vous êtes catholique, je vous dis, bah, écoutez, nous nous reverrons probablement d'ici la fête de Noël. Pas besoin d'en dire plus. Tout le monde se dit, fête de Noël, 25 décembre, la nativité de Jésus. Voilà. Des gens qui sont bouddhistes et qui arrivent du Tibet, je vais dire la fête de Noël. Noël, c'est la fête des chrétiens où on célèbre la naissance de Jésus. Parce que ce sont des Tibétains qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas. Eh bien, c'est la même chose quand Saint-Marc dit, la fête de Pessah, la fête de Pâques. Pâques est une fête importante pour les Juifs. Voilà. Bon. Quand on dit ça, c'est qu'on s'adresse à un public qui n'est pas juif. Voilà. Donc, un public de pagano-chrétiens. Également, il parle assez peu de l'Ancien Testament, à la différence de saint Matthieu, par exemple, qui s'est adressé très probablement à des juifs d'Antioche. Voilà. Il s'adresse à des pagano-chrétiens. Deuxième élément, pour beaucoup de pères de l'Église, Marc a composé son évangile à Rome. Voilà, ça cadre bien avec l'idée de Pierre à Rome. Hein. Une hypothèse sûrement plus sérieuse que celle d'Alexandrie, qu'on a chez Jean Chrysostome et chez quelques autres pères de l'Église, ou la Syrie, hein, qui ont été proposées, il y a encore d'autres propositions. Mais un indice qui est quand même très intéressant, c'est qu'on a chez Saint-Marc beaucoup de ce qu'on appelle le latinisme, c'est-à-dire des formes littéraires qui fonctionnent avec le latin, qui ne fonctionnent pas avec le grec. L'évangile a été composé en grec, et vous avez en grec des mots qui viennent du latin. Voilà. Donc, à peu près tous les évangiles en ont, mais il y en a beaucoup plus chez Saint-Marc. Il y a des formules latines, il y a des mots latins, voilà, des tournures. Voilà. Et alors là, c'est quand même assez probant. Hein, là, il y a toute une liste que je vous épargne ici, mais qui laisse entendre qu'en effet, il y a vraiment ce lien avec le monde latin, avec le monde romain. J'accélère un peu pour que vous puissiez avoir le temps de quelques questions. Présentation littéraire. Alors, il est difficile de dégager un plan rigoureux de l'évangile. À ceux qui avaient suivi Saint Matthieu ou qui connaissent Saint Matthieu, on a les cinq grands discours avec des actions, des actes de Jésus, donc discours et actes, avec cinq gros morceaux. Chaque discours est lui-même très très bien structuré. On n'a pas ça chez Saint Marc. Alors, on a une approche qui est assez fréquente, c'est de prendre la géographie. Mais c'est un peu compliqué de suivre la géographie. Hein. Globalement, il y a la Galilée, le territoire païen, et puis Jérusalem. Voilà. Et à la fin, à Jérusalem, il y a une première partie d'activité publique, et puis ensuite la Passion et Résurrection. Mais c'est quand même très sommaire, et je me souviens quand j'étais au séminaire, quand on est au séminaire, alors on a envie de tout découvrir, tout faire, tout lire, on nous propose de lire l'Évangile en entier, je m'étais amusé à lire complètement Saint-Marc en notant plein de choses, et puis j'avais notamment voulu m'amuser à faire le trajet exact, peut-être déjà l'attirance pour la Terre Sainte, en disant quel est le trajet que Jésus a fait. Voilà. Et bien je peux vous dire qu'il y a un moment quand il arrive de Tyr et de Sidon qui va en Décapole, qui passe par le lac, c'est complètement incohérent. Alors je me suis dit, mais alors c'est mes données qui ne sont pas bonnes ou c'est mon dessin qui ne va pas. Enfin, je reprenais les trucs à gauche, à droite, par derrière, devant. Enfin, c'était pas possible, quoi. Voilà. Donc j'ai dit, c'est pas possible. L'évangile a été composé, recomposé, ce qui est normal. C'est le travail de l'évangéliste. Donc ça donne quand même une indication, c'est-à-dire que la Galilée, c'est le lieu où Jésus va parler aux foules. Les foules, les gens ne vont pas croire, ne vont pas comprendre. Le chemin vers Jérusalem, c'est le chemin de l'explication aux disciples. Et le chemin à Jérusalem, c'est l'accomplissement. C'est la mort et la résurrection. Donc il y a bien une cohérence. Mais ce n'est pas suffisant. Alors je m'appuie encore sur Camille Faucan. Voilà, vous avez deviné que c'est un exégète que j'ai apprécié. Il propose un découpage selon le développement du drame, c'est-à-dire en suivant davantage la trame narrative elle-même. Hein, une trame narrative qui est centrée sur la question de l'identité de Jésus. La grande question de Saint-Marc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qui est Jésus ? Hein, c'est tout sauf une question formelle. Qui est Jésus ? C'est la grande question. C'est la grande question. Et la trame narrative, c'est-à-dire la manière dont le récit est composé, va nous aider à y répondre. Une première partie, alors je fais un gros trait. Première partie, on retrouve d'ailleurs la géographie. L'évangéliste s'interroge à propos de l'identité de Jésus. On se pose la question, qui est-il ? Quand il y a le Jésus qui calme les flots, qui est-il celui-là qui commande à la mer et aux flots ? La grande question, qui est-il ? Voilà, qui se pose dès le début de l'évangile. Une partie qui est encadrée par un prologue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, évangile de Jésus-Christ, hein, fils de Dieu, et la déclaration de Pierre reconnaissant Jésus comme Messie. Donc le chapitre 8, c'est le moment où Jésus recueille les fruits de toute sa pédagogie, de tout son travail, et je pense que comme un professeur satisfait de voir son élève qui donne une vraie réponse, une bonne réponse, Jésus a dû se dire, voilà, quand Pierre dit « tu es le Christ », et qu'on voit que ça vient du fond du cœur, Jésus a pu dire, ben voilà, ce premier temps d'enseignement, ça n'a pas marché avec les foules, mais Pierre et les apôtres, eux, ont franchi une étape. Donc voilà, là on franchit une étape importante. Deuxième partie, il y a un rebondissement, puisque les apôtres n'ont pas bien compris. Donc là, il y a des étapes assez bien marquées avec la révélation progressive de ce qui va advenir de Jésus. Là, je vous ai passé un peu des détails sur les annonces de la Passion. Les choses se mettent en place avec ces annonces de la Passion, avec l'arrivée à Jérusalem. Et cet itinéraire du Fils de l'homme, qui est celui de la passion et de la résurrection, qui aboutit finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, à la confession du centurion. Alors il y a un plan que je vous propose, je ne vais pas m'arrêter dessus, hein, vous le retrouverez, ça nous servira de guide pendant que nous lirons l'Évangile. Hein, je le reprends à Camille Faucan. Le style et le vocabulaire, en lisant saint Marc, hein, alors c'est ce que je disais en introduction tout à l'heure, on est tenté de s'en tenir à une première impression. Hein, il écrit d'une manière frustre. Je crois que certains en ont eu l'impression. Hein, plusieurs, en fait, hein, qui m'ont dit, oui, quand on lit, c'est quand même pas le plus palpitant, c'est un peu grossier. Hein. C'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux. Son grec n'est pas le meilleur. Il a un vocabulaire qui est assez pauvre. Les récits commencent presque tous par la particule « et ». Imaginez que, par exemple, ce soir, à chaque phrase, j'aurais fait « et ». Et après, Saint-Marc, eh bien, il écrit une trame narrative. Et après, eh bien, Saint-Marc, il compose son évangile en plusieurs parties. Et après, ben, il y a des choses qui sont quand même pas très faciles à lire. Et après, quand vous revenez à la première partie, alors au bout d'un moment, vous en avez un peu assez, vous dites, bon d'accord, hein. Je force un peu, mais chez Saint-Marc, il y a beaucoup ces « et », suivi d'un adverbe, aussitôt, de nouveau, parce qu'il essaye de... Voilà. Mais on n'a pas cette fluidité du texte qu'on aura chez Saint-Luc. Hein. La syntaxe, c'est la manière dont le texte est composé, on peut dire la grammaire, est peu soignée au regard de la grammaire grecque. Hein. Son style populaire garde des traces de sémitisme, alors ce n'est pas un défaut, mais il n'emploie pas sa connaissance des langues sémitiques d'une manière très intéressante. Hein. On sent que c'est un petit peu lourd. À ce qu'on appelle le sémitisme, ça veut dire des formules, hein, qui reproduisent exactement ce que l'on dirait en araméen ou en hébreu. Vous voyez, hein, sans chercher à trouver le terme grec correspondant. Donc quelque chose d'assez sommaire. Ces remarques, évidemment, ne sont pas fausses. On constate que c'est comme ça dans l'Évangile. Mais souvent, on s'en tient là. Et c'est un peu dommage parce que Saint-Marc a un autre intérêt. Tout d'abord, on se rend compte qu'il y a quand même des qualités littéraires qu'on ne peut pas taire dans la manière de composer les sources, dans la manière de d'écrire. Hein, vous verrez, il y a un procédé, par exemple, qui est assez propre à Saint-Marc. Hein, le terme n'est pas très joli, mais au moins on sait ce que ça veut dire. Le procédé du sandwich. Voilà. Hein, il va raconter un épisode, et puis un événement, un miracle, par exemple, et l'épisode suivant va reprendre le précédent. De telle sorte qu'on va penser à ce qui a été dit juste avant. Par exemple, Jésus passe à côté d'un figuier, il voit que le figuier ne porte pas de fruits, il dit plus jamais ce figuier ne portera de fruits, il va au temple, et puis il repasse devant le figuier. Et il y a de nouveau un enseignement sur le figuier. Mais comment ça se fait? Le figuier, le temple, le figuier. Ben on se rend compte qu'en réalité, les deux passages du figuier sont comme une parabole pour comprendre ce qui se passe au temple. Voilà. Ça marque, compose très bien les choses comme ça, on l'a à plusieurs reprises. Voilà. Mais surtout, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas demander à Marc ce que Marc n'a pas l'intention de nous donner. Marc n'a pas l'intention de nous donner une belle œuvre, bien composée. Saint-Luc le dit, lui, il va bien composer, il va bien écrire. Saint-Marc, ce n'est pas son intérêt. Son intérêt, c'est qu'il veut témoigner, il veut transmettre un témoignage. On voit chez Saint-Marc, et jusque dans ses maladresses, sa proximité avec les sources. Il a voulu les garder. Il a voulu être proche du témoignage qu'il a reçu. C'est comme témoin direct de Saint-Pierre, si nous gardons l'idée que Marc était le secrétaire de Pierre, je pense tout à fait, hein, eh bien c'est en tant que témoin de Pierre, témoin direct, hein, dont il a voulu transmettre les paroles, hein, c'est comme ça que nous devons le lire. Et Pierre lui-même étant témoin direct de Jésus. Donc Marc va recueillir cet héritage, il dit « mon problème, c'est pas de faire un beau récit, mon problème c'est que cet héritage extrêmement précieux, je le transmette tel quel. » Pour prendre une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est morte le 30 septembre 1897, et les sœurs qui se sont succédées auprès d'elle ont toutes noté dans un petit cahier ce qu'elles ont entendu. Même certaines, quelquefois, étaient au même moment, et les cahiers, les témoignages sont un peu différents. Mais parce que, bon, comme je vous disais, il y a ce qui est dit, mais comment on l'entend? Voilà. Mais elles ont recueilli tel quel, et elles veulent garder précieusement. Et sa marque a fait ça. Je garde ce que j'ai entendu. Voilà. Et donc, je crois qu'il y a cette immédiateté de la rencontre avec le témoignage. Finalement, ça nous dit quelque chose au plan théologique qui est très intéressant. C'est que Marc a voulu rendre compte d'un événement tel qu'il a été. Tel qu'il a été. Hein, d'ailleurs, l'expression « tel qu'il était », on l'a dans l'Évangile. Hein. Jésus vint dans la barque, il vint dans la barque tel qu'il était. Allez, Jésus survient, Jésus surgit, Jésus est là. Voilà, et on l'accueille. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. L'événement de Jésus est en tant que tel lui-même l'Évangile. Il est la bonne nouvelle que Marc a à transmettre. Hein. Il y a chez saint Marc beaucoup de « aussitôt ». Je prends au hasard. Hein. Il pénètre à Capharnaüm. Et aussitôt, le jour du sabbat, étant entré dans la synagogue, il enseignait. C'est-à-dire, pourquoi il dit aussitôt ? Ils étaient frappés de son enseignement, il enseignait comme ayant autorité, pas comme les scribes. Et aussitôt, il y avait dans la synagogue un homme possédé d'un esprit impur. On ne voit pas très bien ce que le aussitôt vient faire, parce qu'il est déjà dans la synagogue. Et aussitôt, donc il raconte l'histoire de l'homme, et voilà, aussitôt, ça répondait, quelques versets plus loin, et aussitôt, sortant de la synagogue. On va dire, d'un point de vue littéraire, c'est un peu lourd. Mais théologiquement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Jésus survient. Et aussitôt, il n'y a pas à attendre. On reçoit la présence de Jésus qui survient, qui est là. Et c'est lui qui est l'Évangile. C'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle qui s'accomplit. Voilà. Je conclue. Hein, il reste au lecteur à parcourir le récit de l'Évangile à la manière dont les disciples eux-mêmes ont cheminé. Le cheminement géographique des disciples que j'ai évoqué hein, sur les routes de Galilée et de Judée, c'est ce même cheminement que nous faisons à travers le texte. Et le but, c'est d'arriver à confesser nous aussi, comme Pierre, et puis comme le centurion, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est ça l'aboutissement. Il nous reste quelques minutes pour des questions. Oui.
Alors, on a parlé de la présentation du livre, on a parlé du lecteur.
Alors, il faut respecter les normes de sécurité, machin, mais il faut reconnaître qu'on a beaucoup souvent du mal à entendre. Donc, faites attention, soit vous parlez très distinctement, soit vous reculez un peu le masque. Oui.
Alors, on a parlé, pour la présentation du livre, on a parlé de l'auteur, de la date, de la présentation de la proposition. On n'a pas parlé de la chronologie.
C'est-à-dire la chronologie.
De la vie du Christ, est-ce qu'elle a été racontée ? Est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas sauté ou...
Alors, je n'ai pas abordé cette question. Si je comprends bien ce que vous dites, et je pense que c'est très important, est-ce que finalement l'Évangile est une biographie ? Et est-ce qu'on a des éléments biographiques de la vie de Jésus ? C'est ça ?
Est-ce qu'il n'a pas inversé les étapes, peut-être ?
Je ne crois pas qu'il ait inversé. Le projet de saint Marc et finalement de tous les évangélistes, ce n'est pas de raconter une biographie comme nous-mêmes nous la raconterions. Hier, avec la paroisse Sainte-Anne, nous avons découvert la figure du père Franz Stock, qui est un prêtre étonnant, magnifique. On lit la biographie de Franz Stock et c'est important de suivre les étapes biographiques. Pour Jésus, évidemment, la chronologie a une certaine importance, mais elle n'est pas contraignante. Et saint Marc ne va pas rentrer dans un récit chronologique au sens strict. Par exemple, hein, chez saint Luc, vous avez une montée vers Jérusalem, très nettement. Il est évident que Jésus est monté plusieurs fois à Jérusalem. Saint Luc va recomposer les choses pour qu'il n'y ait plus qu'une montée. C'est un projet théologique. Donc vous avez une sorte de mélange entre l'aspect chronologique historique, parce que malgré tout, Jésus met bien... Saint-Marc met bien la Galilée avant Jérusalem, il met bien la prédication aux foules avant la Passion. Donc il y a quand même un certain ordre, mais il prend sûrement une certaine liberté. Il prend une certaine liberté. En tout cas, Saint-Marc est tout à fait insuffisant pour faire une chronologie. L'évangéliste qui permet le mieux de faire la chronologie, c'est Saint-Jean. Hein, avec les indications sur les fêtes, qui sont assez précises, et saint Jean est extrêmement, ça je raconte toujours l'histoire, mais au séminaire, Père Kobelski avait voulu faire toute la chronologie de l'histoire de Jésus, et en bon séminariste que nous étions, les pieds joints, on a sauté au milieu du plat, on a remué, c'est-à-dire qu'on a dit tout sauf saint Jean. On a essayé de faire la chronologie avec Matthieu, Marc, Luc, on s'est planté. C'était, vous savez, comme dans la semoule, là, en pédale, on n'y arrivait pas. Donc, il nous laissait faire. Je crois qu'il faisait exprès. Et à la fois, on passait au tableau les uns après les autres. Puis, il nous a bien engueulé. Et il dit, mais précisément, c'est Saint Jean. Et c'est pas parce que Saint Jean est très théologien, très contemplatif, qu'il est pour autant déconnecté de la trame historique. Hein. Voilà, s'il faut lire Saint Jean. Saint Marc, non, la chronologie, et c'est le récit, c'est des événements, c'est des histoires, mais c'est pas une chronologie comme dans une biographie. Est-ce qu'il y a d'autres...
Saint Marc n'a pas reconnu le Christ du tout.
Alors, attention, on a très peu d'éléments, c'est très peu probable. S'il avait connu directement le Christ, ce serait sorti d'une manière ou d'une autre. On devine bien que c'est un témoignage. Mais si, il y a l'épisode de ce jeune homme qui s'enfuit tout nu. Voilà, ça veut dire dans la nuit, parce que c'est ça qui explique la chose, dans la maison. Quand Jésus allait à Gethsémani, on se dit pourquoi Gethsémani ? Parce que c'était un endroit où il était accueilli. Donc on peut imaginer, il y avait la famille de Jean-Marc. Alors là, il y avait peut-être un lien, c'est peut-être ça. Mais on n'a pas assez d'éléments. Il faut faire très très attention, là, de ce côté-là, je donne raison, en grande partie raison, aux exégètes critiques depuis la fin du 19e siècle. Ils disent on a construit beaucoup, on a voulu remplir les vides. La nature a horreur du vide, alors on remplit les vides. Et donc on dit, ben, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Les évangiles ne disent pas. Je crois qu'il faut s'en tenir à la doctrine de Saint Jean, hein, qui pour moi est fondamentale quand on lit les évangiles. Ce qui a été écrit, c'est ce dont nous avons besoin pour notre salut. Il y a des événements, si on ne le sait pas, c'est que ce n'est pas essentiel. Alors on peut essayer de supposer, mais on n'a pas, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Oui ? Parlez très fort parce que.
Pourquoi vous dites que les foules n'ont pas reconnu Jésus ?
Parce que. Alors là, c'est une remarque assez générale sur les quatre évangiles. Je regarde ma montre, ça va. Il faut qu'on ait terminé dans deux minutes. Ce que les exégètes appellent l'échec galiléen, qu'on a par exemple très nettement chez Saint Luc, hein, Jésus fait des miracles, les gens sont très heureux, donc ils voient Jésus comme un thaumaturge. Jésus, il voit une figure messianique, le Messie viendra, il apportera la guérison, mais ils ne se rendent pas compte que ce sont des signes, justement. Un signe, ça renvoie à autre chose. Hein. Si Jésus guérit un aveugle, tant mieux pour l'aveugle, mais c'est pour que l'aveugle arrive à un acte de foi. Les gens vont dire, regardez, il est super puissant, il guérit les aveugles. Donc on voit des foules qui se pressent auprès de Jésus et qui demandent des guérisons, et on le comprend. Devinez bien que quelqu'un qui est malade, quand on lui promet la guérison, c'est... Mais Jésus n'est pas là pour guérir. Enfin, c'est peut-être vous choquer, mais Jésus n'est pas là pour guérir physiquement. Ça, en effet, on va dire, pourquoi n'a-t-il pas guéri plus de monde ? C'est un peu choquant, on entend souvent la question, pourquoi Jésus n'a-t-il pas purifié davantage ? Parce qu'il n'est pas là pour remplacer le travail des médecins. Il est là pour que les gens aient la foi. Et quand il guérit quelqu'un, c'est pour que la personne croit et que les foules, en voyant cela, se disent « Mais véritablement, c'est Dieu qui est en train d'accomplir son salut. » Et la conclusion, alors là, je reprends encore Saint-Luc, la conclusion, Jésus ne fit pas beaucoup de miracles parce qu'il n'avait pas la foi. Donc c'est le moment où il cesse de faire des miracles et il va finir, hein, chez Saint Matthieu, je crois, et chez Marc, ça va être chapitre 6, quand il va à Nazareth, à la multiplication des pains. Les gens sont très rassasiés, ils sont très contents, mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'en Jésus, Dieu lui-même vient sauver son peuple. Et c'est là que Jésus va finir par se cesser de parler aux foules, il va prendre les apôtres à part, il va aller dans une région un peu loin, à Césarée de Philippe, dans le nord, hein, et c'est là qu'il va faire une retraite spirituelle avec ses disciples, en disant, bon, qu'est-ce que les gens disent à mon propos ? Bah, tuez, je ne sais pas quoi, le prophète, machin, mais vous, que dites-vous ? Alors, tuez le Christ. Et là, Jésus dit, voilà, on peut aller plus loin. Ouais. C'est pas qu'il rejette les foules, mais il constate qu'il n'y a pas la foi qu'il attendait. Alors, chez Saint Marc, c'est très, très... Chez Jean, c'est marqué, chapitre 6. Hein. Il nourrit les foules, il fait le discours du pain de vie. Et à la fin, tout le monde dit, là, on ne peut plus le suivre. C'est plus possible. Et Jésus pose... Alors là, je sors de Saint Marc. Il dit, vous avez été content parce que vous avez été rassasié. Hein. Mais est-ce que vous avez reconnu que c'était un signe ? Recherchez les choses d'en haut. Vous cherchez ce qui vous satisfait immédiatement. Quelqu'un devient chrétien. Ah ben moi, je suis chrétien parce que quand je prie, ça me met super à l'aise. Ça me fait du bien. J'adore. Mais les adorations, c'est super. C'est des moments où tu t'es relax et tout. C'est super. Donc, c'est très dangereux. Parce qu'au bout d'un an, la personne elle sera plus relaxe. Je ne sais pas si vous connaissez ça, où il y a des moments où on n'est plus tellement relax dans la prière. Ça devient plus dur. Mais qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche? Et on dit, je pose un acte de foi et je sais que le Seigneur est vivant. Mais ce n'est pas facile. Mais ma foi, comme dit saint Paul, je sais en qui j'ai mis ma foi. Donc je ne cherche pas la satisfaction immédiate, mais je veux aller plus loin. Et les apôtres vont aller plus loin. Et ce n'est pas facile. Voilà. Il y a encore une question? C'est fini? Voilà, vous avez été d'un héroïsme qui force mon admiration. Le temps du repos est arrivé. Voilà. N'hésitez pas d'une fois sur l'autre à... S'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, ou je devine qu'il y a beaucoup de matière, vous notez les choses. La fois suivante, on peut reprendre les questions. La fois prochaine, c'est donc chapitre 1, une journée à Capharnaüm. Voilà, et nous allons chanter les complis.
Et la feuille des cercles de gloire.
La feuille avec les adresses.
Oui. Elle est où, la feuille?
Elle est là. Voilà. C'est Guy qui l'a.
Bonsoir, Annie, ça va?
Vous n'avez pas ceux qui n'ont pas mis leur nom?
Non.
Il y a José qui n'a pas mis. Vous voulez que qu'on enregistre quoi? Bonjour. Voilà, j'ai dit bonjour.
Sur votre téléphone.
Sur mon téléphone?
Oui, parce que je l'ai... Il est en train de enregistrer là.
Ah d'accord.
Oui,
bah, c'est
voulais,
gentil.
Merci.
Ah ben super.
Mais
toi
enregistré.
Okay.
Vous pas
enregistré. Vous êtes un enregistré. De toute façon, ça a été enregistré là aussi.
Oui, oui.
D'accord. Là aussi. Bon, ben, je crois que ça.